Chapitre 1. Une pension bourgeoise. Madame Vauquer, née de Conflans, est une vieille femme qui, depuis 40 ans, tient à Paris une pension bourgeoise, établie rue Neuve-Sainte-Geneviève, entre le quartier latin et le faubourg Saint-Marceau. Est-ce que vous avez reconnu cette incipit, comme on nous l'avait appris? Eh bien, c'est l'incipit, le début du Père Goriot de Balzac, qui, je suppose, a dû vous traumatiser durant vos années collège ou lycée, parce que justement, ce roman s'ouvre par un très 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 long passage descriptif. Enfin, en vérité, c'est une dizaine de pages, mais à l'époque, ça nous en paraissait 100. Et on se disait, mon Dieu, ça ne sert à rien, on ne comprend rien, tout ça c'est du décor, de toute façon, Balzac est payé à la ligne, etc., etc. Bienvenue dans cette mini-classe, qui sera, vous l'avez compris, consacré à la description. Je suis écrivain et traducteur, Denis Michaelis. J'ai publié 4 romans, j'en ai traduit 4 autres. Et je me suis assez rapidement intéressé à la description parce que justement dans mon premier livre, j'osais à peine décrire le décor dans lequel évoluait le personnage. Il s'agissait d'un restaurant un peu étrange. Et j'osais pas parce que je pensais d'abord ne pas être très 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 capable de décrire, et puis surtout je me disais au fond la description c'est un peu inutile, c'est un peu vain, hein. Alors pas du tout, la description, alors bien sûr on peut se dire que lorsqu'on est écrivain et quand on arrive au passage descriptif, c'est un peu le moment où on va prouver qu'on sait écrire, hein, qu'on sait utiliser tout un tas d'adjectifs ou d'adverbes, qu'on est très bon dans les comparaisons, dans les métaphores, dans les personnifications. Bref, on va en mettre plein la vue au lecteur. D'un côté, j'ai envie de dire, c'est aussi important de transmettre la beauté d'un style ou la beauté d'une langue au lecteur. Donc oui, un passage descriptif peut avoir une fonction purement d'un plaisir, en fait, visuel et sensoriel. Donc il n'y a aucun problème avec ça, mais quand même, en règle générale, la description doit faire sens dans un livre. Alors je passerai très rapidement sur l'une de ces fonctions que j'appellerai la fonction sociologique. Une description peut évidemment donner des renseignements à votre lecteur quant au milieu social dans lequel se trouve votre personnage. Hein, si vous décrivez par exemple comme le père Goriot dans la pension Vauquer, il décrit chaque pièce, chaque étage, chaque meuble, chaque élément de vaisselle, chaque assiette, et il insiste vachement, je me souviens, de la crasse, de la saleté qui règne. Et au fond, ce que veut dire Balzac, c'est que voilà, cette femme bourgeoise qui loue la pension à ses locataires, au fond, est pingre, est totalement avare, puisqu'elle ne fait aucun effort, tout est resté, en gros, si je peux le dire de manière prosaïque, dans son jus, et qu'elle profite, hein, de la faiblesse et surtout de l'argent de ses pensionnaires. Donc voilà, il y a un sens sociologique qu'on peut évidemment donner à la description. Mais il y a autre chose qui me semble encore plus intéressant, c'est qu'à mon humble avis, la description doit dire quelque chose de la psychologie d'un personnage. C'est un peu comme quand vous vous réveillez le matin, vous regardez à travers la fenêtre, alors je ne sais pas ce que vous voyez, est-ce que c'est un arbre, un parc, d'autres maisons, d'autres immeubles, une cour intérieure. Mais en fonction un peu de votre humeur, ce paysage va revêtir des significations différentes. Il va vous paraître absolument délicieux si vous êtes en joie, si vous êtes de bonne humeur. La lumière va vous paraître hyper belle, vous allez vous dire « mais qu'est-ce que c'est beau quand même, hein, j'ai vraiment de la chance ». Ou si vous êtes levé du mauvais pied, vous êtes complètement déprimé, eh bien le paysage va totalement changer dans la perception que vous en faites. Donc ça a l'air comme ça évident, mais les romanciers procèdent exactement de la même façon, hein. Quand un personnage se trouve dans un lieu intérieur ou extérieur, en fonction de son état psychique, eh bien, l'auteur va modifier, va adapter en quelque sorte la description. Alors je vais vous donner un exemple que j'ai trouvé dans un très beau roman de Laurent Mauvignier qui s'appelle « Apprendre à finir ». C'est un roman qui est paru en 2000, qui est un monologue intérieur, donc écrit à la première personne. C'est une femme qui parle, une femme dont le mari a voulu, a tenté de la quitter, elle et ses enfants. Et en fait, en voulant les quitter, il a eu un grave accident de voiture et le voilà prisonnier. En fait, hein, je vais aller très très vite. Et le voilà à nouveau prisonnier de la chambre d'hôpital dans un premier temps et ensuite de la chambre de la maison. Et c'est terrible pour ce personnage, évidemment, qui a voulu fuir et qui maintenant est à nouveau entre quatre murs. Et c'est aussi terrible pour la narratrice qui se rend bien compte de la haine qu'elle inspire à son mari à chaque fois qu'elle tente de l'aider et de prendre soin de lui. C'est un livre terrible, mais très très beau. Le premier passage très court que je vais vous lire, c'est dans la chambre d'hôpital. Comme dans la chambre blanche, sous les odeurs de propre, de trop propre, sous l'air soulevé par les blouses qui tournaient dans la chambre, oui, lui il croyait ça, qu'il était l'otage de mes pas, de mes chaussures contre le lino, de ma main sur la poignée de la porte, de moi retirant devant le lit mon manteau de laine et l'accrochant sur un cintre dans l'armoire, avec les portes métalliques qui vibraient sous ma main. Lui, pris en otage de son corps, pris sous les draps à la blancheur trop nette, par tout ce qui, de lui, refusait d'obéir à sa voix. Son corps vaincu et rangé dans l'armoire, entre deux étagères, ou sur un porte-manteau, des vêtements, un peignoir. Détruit par l'odeur des tulipes, par la rougeur des pétales, par les fleurs sur la table. Alors, que fait Mauvigné? Vous voyez, il ne se contente pas uniquement de décrire une chambre d'hôpital avec un lit, des draps blancs, une armoire et le lino sur le sol. Ce qu'il fait, sans nous lancer dans un commentaire composé, il y a deux choses moi qui m'ont frappé, c'est qu'il inverse vraiment les symboliques des couleurs, c'est-à-dire la blancheur qui est normalement symbole de pureté, ici est un leurre. Hein, tout est trop blanc. Hein, la blancheur est trop nette. L'odeur du propre et c'est trop propre. Vous voyez, il y a cette illusion. D'une pureté retrouvée. Pareil pour les tulipes. Alors en général, on offre des fleurs hein, à un malade, à un convalescent, pour lui faire plaisir. Alors des tulipes, le rouge, vous n'êtes pas sans ignorer que normalement le rouge symbolise la passion, l'amour, la vie. Ici, c'est tout à fait autre chose. Mauvigné dit littéralement que le corps du personnage est détruit par l'odeur des tulipes, par la rougeur des pétales, par les fleurs sur la table. Vous voyez déjà ce qu'on peut faire avec un simple bouquet de fleurs et la simple couleur de drap. Il y a un autre moment dans le livre où le personnage est à nouveau chez lui. Alors il n'est pas dans la chambre, si mes souvenirs sont bons, il n'est pas dans la chambre conjugale, mais il a pris ses quartiers dans la chambre d'un des enfants qui lui a prêté. Alors il commence un peu à remarcher, mais c'est difficile. Mais l'espoir d'un déjeuner organisé avec des amis va finalement l'obliger à faire des efforts et à essayer de remarcher. Et voilà, dans ce passage, Mauvigné donc décrit cette chambre avec, vous allez voir à la fin, il insiste un peu sur le motif de papier peint. Oui, ce serait l'envie qui serait le fer de lance, l'envie furieuse qui se lancerait contre tout ça. La fenêtre sur la droite, le mur en face de lui, la télé et le meuble de la télé, et juste à côté la petite table de chevet, et puis la porte aussi par laquelle il voyait arriver vers lui les visiteurs, la porte sur la gauche qu'il voulait voir toujours ouverte, pour étendre un peu l'horizon de sa vue, ou même quand il dormait, qu'il voulait savoir ouverte comme pour laisser ses rêves s'échapper, pour qu'au moins dans la journée l'œil ne bute pas à tous les angles de la même chambre, mais qu'il puisse venir et partir avec les gens, les accompagner presque dehors, qu'il puisse, son œil, lui donner l'impression qu'il n'y avait pas que des angles, des lignes, des murs, des univers de papier peint, avec des plaques de polystyrène pour protéger du froid, les plafonds blancs, jaunis, avec les plaques décollées par endroits, vers l'ampoule qui pendait sous le plafonnier au milieu de la chambre. Oui, que ce ne soit pas toujours ce papier peint de la chambre au motif infini d'un vol d'oiseaux, d'un lac, de roseaux, que ce ne soit pas ce papier qu'on s'était promis depuis tellement longtemps de changer. Un papier peint, avec un motif infini d'un vol d'oiseau, d'un lac de roseaux, qui est quand même, qui est censé là aussi symboliser voilà, l'échappatoire, l'ouverture, le paysage presque infini, la liberté. Ici, pareil, c'est un leurre, c'est un papier peint qui ne rappelle qu'une chose au personnage, qu'il est prisonnier. Et ce qu'il lui reste comme unique échappatoire, c'est cette ouverture, c'est cette porte ouverte où l'œil peut enfin s'évader pour quelques minutes, hein, quelques heures, s'évader et ne pas toujours buter hein, à ces lignes. Alors voyez, en plus ce qui est génial chez Mauvignier, c'est que c'est des phrases qui n'en finissent pas, sont très haletantes à lire. Alors vous voyez, j'ai un peu buté parfois, j'en suis désolée. Mais d'abord, la lecture est faite pour être lue dans sa tête. Hein. C'est ça que sert le roman. Et puis j'aime bien cette longueur des phrases chez Mauvignier parce qu'elle, voilà, là aussi, ce style a un sens parce que on sent le personnage qui est pris dans un ressassement, qui est dans cette roue dans laquelle il tourne et dans laquelle il ne peut pas avancer, un peu comme la roue d'un hamster. Bon, cette comparaison vaut ce qu'elle vaut, mais au moins elle est claire. Alors, si je peux vous donner un conseil pour la description, un conseil très très important, c'est de privilégier davantage qu'un seul sens. Là, vous avez vu, dans le passage sur la chambre que je viens de vous lire avec le papier peint, c'est surtout l'œil, hein, c'est surtout la vision que Mauvignier a choisi d'utiliser, c'est-à-dire sur laquelle il a choisi de s'arrêter. Mais on peut aussi, au-delà de la vue, s'intéresser à l'ouïe, à l'odorat, au toucher et au goût. Par exemple, si vous décrivez un arbre ou une forêt, bien sûr, vous pouvez vous lâcher sur les couleurs, mais pensez aussi au bruit, par exemple, au bruissement des feuilles. Pensez au toucher, par exemple, au tronc. Est-ce qu'il est rugueux? Est-ce qu'il y a de la mousse? Est-ce qu'il y a le moelleux de la mousse? Est-ce qu'il y a une douceur ou plutôt une rugosité? Intéressez-vous aux odeurs aussi. Est-ce qu'il y a une odeur de la forêt, une odeur des arbres, une odeur des feuilles? Pour le goût, ça marche un peu moins. Pardon, hein, ça ne marche pas à tous les coups. On va pas, ou alors à moins que votre personnage se mette brusquement à lécher le tronc ou la mousse des arbres. Mais vous voyez, au moins, vous vous êtes intéressé à davantage qu'un seul sens. Et ça donne, je trouve, de la richesse à une description. Mauvignier ne l'a pas tellement fait dans le passage avec le papier peint, mais dans celui où il décrit la chambre d'hôpital, quand il dit « sous les odeurs de propre », bon, voilà, il est question de l'odorat, « sous l'air soulevé par les blouses qui tournaient dans la chambre », là, on est clairement dans la sensation, c'est comme les chaussures contre le lino. Là, on est à la fois dans la sensation et aussi dans le bruit. Quand il dit « les portes métalliques qui vibraient sous ma main », on est dans le toucher. La blancheur trop nette, évidemment, c'est le regard, c'est la vue. Et l'odeur des tulipes, on est dans l'odorat. Donc là, Mauvignier a utilisé l'essence, c'est-à-dire il a rendu ce que moi j'appelle, c'est l'expression que je donne, c'est il fait que la description est vibrante, c'est-à-dire la description au fond vit comme un personnage, hein, vous l'incarnez littéralement et littérairement également. Donc voici vraiment le conseil que je peux vous donner, faites sens de cette description. Ne vous contentez pas seulement de l'aspect décoratif et plaisir de la langue, même si c'est évidemment important le style. Demandez-vous si dans cette description, vous ne pouvez pas donner quelques indications, éventuellement sociologiques au lecteur, mais surtout une indication quant à l'état d'esprit du personnage, comment il se sent à ce niveau-là. Donc, comme petit conseil, puisque vous en êtes arrivé normalement à la moitié de votre peut-être futur manuscrit, revenez en arrière, regardez ce que vous avez fait. Peut-être que inconsciemment ou naturellement, vous aurez conféré à votre description autre chose qu'un simple aspect esthétique. Peut-être que vous pouvez un peu modifier éventuellement. Posez-vous la question de l'intériorité du personnage que doit exprimer ce passage descriptif. Et puis, si vous voulez, si vraiment vous êtes un dingue des consignes d'écriture, des propositions d'écriture, moi, je donne souvent ça dans mes ateliers. Ça vient vraiment des anglo-saxons, hein, du creative writing, de l'écriture créatrice ou créative. active, tout dépend de la traduction. Il y a ces deux petits exercices que j'aime beaucoup. Vous avez un personnage qui regarde un paysage intérieur ou extérieur. Vous devez écrire deux textes. Dans le premier, le personnage est amoureux, mais vous ne devez jamais utiliser le terme d'amour ou amoureux. Et dans le deuxième, le personnage vient de commettre un meurtre et vous ne devez jamais écrire le mot meurtre ou mort ou assassinat ou que sais-je. Donc voilà, c'est un peu extrême comme exemple, mais c'est une manière de vous forcer à vous dire, bon, ce personnage est en train de regarder, qu'est-ce qu'il regarde? Peut-être un lac, une forêt, ou une chambre, une cave, un grenier, et il est amoureux, ou alors il vient de commettre l'irréparable. Donc forcément, il a sa psychologie à ce moment-là de l'histoire est totalement différente, et la manière dont il va voir ce qu'il y a autour de lui, dont il va voir le décor, va évidemment revêtir un tout autre sens et d'autres sensations. Voyez? Donc vous pouvez vous adonner à ce petit exercice. En tout cas, ce qui est important de savoir, c'est que moi j'ai envie de vous redonner le goût des descriptions. Hein, il faut un peu sortir de ces traumas d'enfance. C'est vrai que en France, on apprend la littérature d'une certaine manière. Alors on peut critiquer, après on a quand même un très très bon niveau, mais c'est vrai que la description est souvent associée à ces pages interminables de romans classiques, en plus avec énormément de vocabulaire qu'on ne maîtrisait pas. Mais voilà, maintenant on est adulte, on peut, puis surtout on est écrivain, donc on ne peut pas du tout éviter les passages descriptifs dans un roman, c'est impossible, hein, on écrit du scénario, du théâtre, on est uniquement dans le comportement, mais c'est important le décor. Donc prenez plaisir, relisez les romans que vous aimez, regardez comment les auteurs font quand il est question de description. Prenez plaisir vous-même à décrire des paysages, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Écrivez bien, prenez soin de vous et surtout passez un excellent été. À très bientôt.